Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique. Écoutons ce que déclare la Bible.
Voyez combien le Père nous a aimés pour que nous puissions être appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu.
Voici donc le sujet de notre série de discussions actuellement. Que signifie être un enfant de Dieu? Et comment vivre en tant qu'enfant de Dieu?
Ian s'entretiendra avec André afin d'approfondir notre compréhension sur cette vérité si précieuse.
Bonjour André, et merci de vous joindre à nous pour nous parler de ce thème biblique si important.
Merci Yann, et bonjour à tous.
André, la dernière fois, nous avons parlé de la nouvelle naissance qui représente l'une des images bibliques qui nous aide à comprendre l'importance d'être enfant de Dieu et la façon de le devenir.
Oui Yann, et aujourd'hui nous allons examiner une autre image, celle de l'adoption, qui est surtout employée par l'apôtre Paul.
Pouvez-vous définir ce qu'est l'adoption?
Oui. L'adoption est un acte légal par lequel un enfant ou une personne devient membre d'une famille différente de sa famille biologique. Une fois adopté, il bénéficie dès lors des mêmes droits devant la loi que les enfants naturels de la famille adoptive et doit être considéré comme étant leur égal.
L'apôtre Paul se sert du terme de l'adoption pour décrire un événement extraordinaire que l'Éternel a accompli en nous, un événement qu'il désire amener à maturité.
Oui, écoutons quelques extraits de ses écrits. D'abord, Éphésiens chapitre 1, verset 5.
Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous.
Ensuite, Galates chapitre 4, versets 5 à 7.
Il nous a ainsi permis d'être adoptés par Dieu comme ses fils. Puisque vous êtes bien ses fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son fils qui crie « Abba », c'est-à-dire « Père ». Ainsi donc, tu n'es plus esclave, mais fils. Et puisque tu es fils, tu es héritier des biens promis, grâce à Dieu.
Enfin, Romains chapitre 8, verset 15.
En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit qui fait de vous des fils adoptifs de Dieu. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ».
L'adoption est un acte important pour l'apôtre Paul. Expliquez-nous donc ce qu'il souhaite nous enseigner à travers lui.
La première leçon à retenir est celle-ci. Par nature, nous sommes comme des étrangers aux yeux de Dieu. Nous ne sommes pas ses enfants. Sur le plan spirituel, nous pouvons affirmer que nous sommes orphelins. De plus, tout comme un orphelin ne peut pas exiger qu'une famille l'adopte, il nous est impossible de devenir enfants de Dieu par nous-mêmes. L'Éternel doit lui-même accomplir cette démarche pour nous, afin que par sa grâce, tous ceux qui croient en Jésus-Christ deviennent ses enfants.
Malheureusement, il existe beaucoup d'orphelins de nos jours, surtout sur le continent africain. Ces enfants se réjouiraient s'ils étaient placés dans une nouvelle famille. Ils seraient heureux si une personne venait à leur secours pour leur offrir la sécurité dont ils ont besoin et leur assurer un avenir. Cette image décrit en fait ce que l'Éternel a réalisé pour nous sur le plan spirituel.
Oui, cette image nous éclaire sur l'œuvre de Dieu accomplie en nous. Mais j'aimerais dès à présent poursuivre en lisant la citation d'un savant qui nous parle de la conception de l'adoption à l'époque de l'Empire romain, époque à laquelle justement Paul a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit.
Je vous en prie, allez-y.
Écoutons donc son exposé. Voici la vérité profonde de l'adoption vécue dans le système légal romain. La personne adoptée était retirée de son état d'origine et de sa condition initiale pour jouir d'une relation nouvelle avec le chef de famille qui l'accueillait. Toutes ses anciennes dettes se trouvaient annulées, prises à la charge du nouveau chef de famille. On peut ainsi affirmer que la personne adoptée commençait une nouvelle vie au sein de sa nouvelle famille. Dès lors, le nouveau père de famille disposait des mêmes droits et des mêmes responsabilités sur elle que sur tous ses autres enfants légitimes. Il avait le droit de gérer tous les biens lui appartenant. Il avait la possibilité et la responsabilité de la corriger ou de la discipliner et aussi le droit de veiller à ses relations personnelles. Le père adoptif était légalement responsable des actes et des comportements de la personne adoptée et il était de son devoir de pourvoir à ses besoins matériels et éducatifs. Fin de citation.
Tout ceci est fort intéressant. Et pensez-vous que si l'apôtre Paul parlait de l'adoption sur le plan spirituel, c'est parce qu'il s'inspirait des idées romaines?
Oui, dans le système légal romain, nous découvrons des éléments que nous pouvons reprendre afin de mieux comprendre ce que l'Éternel a réalisé pour nous. Prenons par exemple ce devoir du père d'assumer toutes les dettes de la personne adoptée. Parfois, la Bible compare notre condition de pécheur et l'accumulation de nos fautes à un état de surendettement démesuré. Aussi, si Dieu nous adopte comme ses enfants, il s'engage effectivement à payer la dette engendrée par nos péchés, ce qu'il réalisa pleinement sur la croix en mourant à notre place. Par ce sacrifice, le Seigneur efface tous nos péchés. Mais voilà un autre élément important dans le code légal romain. Le père de famille était investi du droit de regard sur les affaires de la personne adoptée et il disposait aussi en cas de nécessité du devoir d'exercer la discipline. Peut-être avons-nous tendance à oublier cet aspect sur le plan spirituel. Si nous sommes enfants de Dieu, notre Père céleste a le droit de s'impliquer dans nos vies, il a le droit de nous corriger et nous devons nous soumettre à sa volonté car désormais nous lui appartenons.
Merci pour ces rappels importants, et je pense que nous y reviendrons plus tard dans cette série. Dans les versets lus tout à l'heure, il est beaucoup question d'héritage. Pouvez-vous nous en parler?
Oui, les enfants adoptés disposaient des mêmes droits en matière d'héritage que les enfants légitimes. De même, l'Éternel prépare pour nous, ses enfants, un héritage dans les cieux qu'il nous transmettra en son temps. Il s'agit de la résurrection à la vie éternelle. Cet héritage sera formidable. Toutefois, en l'attendant, nous devons nous émerveiller du fait que l'Éternel s'est donné à nous comme le Père parfait. S'il est vrai qu'en raison de notre adoption, nous héritons de devoirs et de responsabilités, nous ne devons jamais perdre de vue les joies et les privilèges d'appartenir à Dieu. Désormais, nous jouissons de tout son amour, de toute sa patience, de sa sagesse et sa fidélité, car il est le Dieu, le Roi, le Seigneur qui s'est engagé à nous faire du bien au point de vouloir nous adopter comme ses enfants.
Merci André pour ces enseignements. Nous permettons de mieux comprendre la relation privilégiée que nous pouvons vivre avec l'Éternel, notre Dieu.
Merci Yann, mais avant de vous quitter, je voudrais évoquer un dernier aspect qui me semble important au sujet de l'adoption romaine.
Je vous en prie.
L'adoption dans l'Empire romain était un acte légal irréversible, c'est-à-dire qu'il était impossible de priver un enfant adopté de ses droits.
Et selon vous, toute personne qui devient enfant de Dieu le demeure, à jamais.
J'en suis convaincu, oui.
Et c'est sur cette note que nous devons terminer notre discussion. Mais André sera de retour parmi nous la prochaine fois pour nous parler davantage de ce qu'être un enfant de Dieu implique.
Nous continuons dès à présent notre série de courtes méditations bibliques, dont le sujet porte sur la personne de Jésus-Christ, telle qu'il nous est présentée dans le livre de l'Apocalypse.
Le livre de l'Apocalypse fut écrit par l'apôtre Jean. Le but de son livre est d'encourager les chrétiens à tenir ferme quand confrontés à la persécution et à la souffrance. Hélène va lire dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, les versets 4 à 6. Ensuite, notre invité Jean-Luc nous fera part de quelques réflexions inspirées sur ce texte.
Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs, pour Dieu, son Père, à lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur les mots « le premier-né des morts ». Les premiers chrétiens qui ont pu lire le livre de l'Apocalypse vivaient dans une époque incertaine et violente. Ceux qui croyaient en Jésus-Christ couraient de réels dangers. La persécution s'abattait sur eux. Ils subissaient l'emprisonnement, la torture et étaient exécutés. En pareilles circonstances, pour tenir ferme dans leur foi, une espérance inébranlable devait les animer. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même se présente à eux comme étant le premier-né d'entre les morts. De nos jours encore, la mort représente pour certains un danger bien trop réel. Certains vivent dans des pays où l'insécurité sévit. D'autres subissent des pénuries alimentaires ou vivent avec le risque permanent d'attraper une maladie grave, transmise par l'eau sale ou les moustiques. Depuis des millénaires, nous faisons face aux tribulations les plus diverses. Aussi, pour vivre, nous avons besoin d'une espérance. C'est pour cette raison que Jésus-Christ se présente comme le premier-né d'entre les morts. Mais que signifient ces termes? Ils évoquent la résurrection de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vécu la souffrance, tout comme nous pouvons la subir, mais pire encore, il fut arrêté et faussement accusé. Il fut insulté et torturé. Il fut cloué sur une croix et humilié devant une foule houleuse. Il est mort dans d'atroces conditions. Toutefois, ce ne fut pas la fin. La mort n'a pas pu le retenir. Elle n'avait pas de pouvoir sur Jésus, le Fils de Dieu. Car 3 jours plus tard, il ressuscitait d'entre les morts pour vivre éternellement. En se présentant comme le premier-né d'entre les morts, il nous assure que, bien que le premier à avoir franchi ce cap de la mort à la vie éternelle, il ne sera pas le dernier à expérimenter cette victoire. Si nous croyons en Jésus, nous aussi, nous triompherons de la mort. La mort représente-t-elle la fin de toute chose pour vous? Oui, elle l'est, mais elle n'est pas la fin de notre existence. Elle représente seulement la fin de nos tribulations, la fin de nos misères, la fin de toutes nos expériences désastreuses, si du moins nous croyons en Jésus-Christ. La mort est un ennemi redoutable, mais par la foi en Jésus-Christ, nous pouvons la vaincre et, avec Jésus, nous connaîtrons la résurrection et jouirons de la vie éternelle. Une vie caractérisée par l'absence de tribulation, une vie dans la présence d'un Dieu d'amour, voilà l'espérance qui nous aide à tout endurer.
Merci Jean-Luc pour ces paroles rassurantes. Nous retrouverons nos 2 invités pour la suite de ces séries lors de notre prochaine émission. En attendant, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.